Bon, on va continuer à parler de la sélection, dans ce cas-là, à 8h21 sur France Culture. Nous sommes en compagnie du juriste Olivier Beau, qui a publié dans Le Monde, en compagnie du sociologue François Vatin, une tribune intitulée « L'udiversité n'est pas la solution pour tout le monde », où il est question de sélection. Et nous accueillons Annabelle Allouche. Bonjour Annabelle Allouche. Vous avez particulièrement étudié une forme de sélection qui est le concours, lorsqu'on entend dire finalement que la sélection en France n'est pas suffisante, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens à l'université qui ne devraient pas y être, on se dit qu'il faut une autre sélection, plus de sélection. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ce qui est paradoxal en fait avec la sélection, c'est que on sait depuis longtemps, depuis les années 60, depuis les travaux notamment de Pierre Bourdieu, que la sélection est inégalitaire, qu'elle est inefficace. Du moins, on se pose régulièrement la question de savoir si elle est efficace pour répondre par exemple aux besoins de l'administration, aux besoins du marché du travail, et pourtant on la retrouve partout. On la retrouve partout à l'intérieur du système scolaire et administratif, et notamment aujourd'hui à l'université, que ce soit en master ou en première année.
Quand on dit qu'elle est inefficace, on dit souvent qu'elle est insuffisante en réalité.
Pas forcément. La question de l'efficacité, c'est surtout celle de la correspondance entre le recrutement, les modes de recrutement et les critères de sélection et les besoins du marché du travail et de l'administration. C'est pas forcément...
En quantité, qu'elle est insuffisante.
En quantité, qu'elle est insuffisante, et en qualité, en fait. Et en qualité, quand je parle de qualité, je parle aussi en termes de justice sociale. Dans quelle mesure les administrateurs, et notamment ceux, par exemple, dans les cabinets ministériels ou à la tête des grandes directions des grands ministères, ressemblent à la population? La question que pose la sélection, finalement, c'est la question de la diversité et de la représentativité sociale de ces administrations et de ces élites politiques et administratives au sens large.
Et c'est bien ça qui pêche aujourd'hui, puisque... D'après les différents critères dont on dispose, vous allez me dire si je me trompe, eh bien la France demeure un pays extrêmement inégalitaire. Le système scolaire a bien du mal à promouvoir les enfants d'origine modeste.
Absolument. Ce qui est aussi, pour moi, choquant sur la sélection et le fait qu'on se concentre exclusivement sur le débat autour des concours ou de la sélection, c'est vraiment qu'on oublie que les inégalités sociales se forment au sein du système scolaire dès la maternelle, au final. Et donc que l'attention des politiques comme des médias devrait être sur la formation de ces inégalités dès la maternelle et pas seulement sur le concours ou l'accès dans l'enseignement supérieur, même si ça reste évidemment un moment absolument clé en termes de cristallisation des inégalités sociales.
Et c'est là où on en vient à un point crucial pour la France. On se dit généralement qu'il y a un système dual, une université où tout le monde pourrait aller, voudrait aller, une université qui aujourd'hui sert de variable d'ajustement, en tout cas c'est...
Voiture balai de l'enseignement supérieur,
Olivier Beau.
Métaphore sportive extrêmement
voiture balai
pour ceux qui connaissent.
En tout cas, bon, on a l'impression à entendre Olivier Beau qu'il y a véritablement un problème parce que trop de gens y arrivent, pas forcément les gens qu'il faudrait avoir à l'université. Et donc, on se dit que le système le plus... le système idéal, c'est celui des grandes écoles qui, lui, est articulé autour du concours. Donc, c'est bien le concours, Annabelle Allouche.
Absolument. La légitimité de la sélection, en tout cas dans le discours politique, il repose sur la méritocratie, le discours de la méritocratie républicaine à la française, où on sélectionne les talents, les meilleurs, sur la base de leur réussite, de leur capacité intellectuelle en particulier. Sauf qu'on sait très bien que ces capacités scolaires sont déterminées socialement. C'est-à-dire que la réussite dans l'enseignement supérieur et dans le système éducatif en général dépend de l'origine sociale et dépend de l'implication des familles dans la réussite de leurs enfants.
Ce que vous êtes en train de dire, Annabelle Allouche, c'est que finalement, si l'on décidait de mettre des concours, par exemple, à l'entrée de l'université, c'est la thèse que vous développez dans votre livre « La société du concours », eh bien, on se retrouverait dans une situation qui serait tout aussi inégalitaire que celle qui prévaut aujourd'hui ?
Absolument. Au final, oui, et même pire, puisque on verrait des élèves qui finalement se dirigent vers l'université, qui se sentiraient de facto exclus de cet espace-là qui reste un espace sans sélection et ouvert à tous.
Mais alors expliquez-nous ça, parce que nous on se dit que le concours c'est finalement la meilleure façon de juger de la qualité véritable des individus. Et quand Olivier Beau disait tout à l'heure par exemple le tirage au sort c'est absurde, bah, à peu près tout le monde est d'accord, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas faire régir l'entrée à l'université par des mécanismes de hasard, c'est pas l'auto quoi.
Le problème de la sélection, c'est qu'elle est présentée comme une solution miracle. Pour moi, la véritable solution, c'est vraiment l'investissement matériel, financier, humain dans l'université. L'université est dégradée non seulement financièrement, donc en termes de budget, par rapport aux grandes écoles, mais aussi est dégradée socialement. L'important, c'est qu'on croit collectivement, pas seulement le monde politique, mais aussi nous tous en tant que citoyens, dans l'université, parce que c'est un lieu central pour produire et pour transmettre le savoir.
Mais
un lieu central ouvert à tous.
S'il n'y a pas de sous, est-ce que par exemple, on peut imaginer une augmentation des frais de scolarité ?
Alors je crois que c'est la thèse d'Olivier Beau qui propose une augmentation des frais d'inscription.
C'est ma question venimeuse du matin.
Écoutez, c'est quelque chose qui existe dans certaines universités, notamment à Dauphine. Alors, les sociologues sont en train de travailler sur la question des effets en termes de justement d'inégalité sociale. Dans quelle mesure ça peut décourager les élèves ? C'est une situation également qui existe dans d'autres pays, et je pense en particulier à la Grande-Bretagne. Et ça a été effectivement extrêmement nocif et néfaste pour la participation et l'engagement des classes populaires, des élèves issus de milieux les moins favorisés, dans l'enseignement supérieur.
Mais ça, en est-on certain ? Parce que lorsqu'on va à Harvard, les universités américaines, on le disait, sont les universités les plus chères au monde, avec même une situation de scandale pour les frais donc de scolarité dans certaines facs, où on compte en dizaines de milliers de dollars par an. Donc on a des étudiants qui sortent de ces fac en étant endetté quasiment pour 20 ans, c'est une situation complètement absurde. Et cependant, on voit bien en France que le budget de la fac, il n'augmentera pas au vu de l'état des caisses de l'État. Enfin, à moins que vous pensiez qu'on peut faire changer les choses, mais ça semble quand même très très compliqué, Annabelle Allouche.
Alors, la question des frais d'inscription, pourquoi pas ? Est-ce que ceux qui peuvent se le permettre serait prêt à investir suffisamment pour payer des frais d'inscription, pourquoi pas ? Mais ça ne peut être possible que dans la mesure où on crée des bourses. Des bourses, non seulement qu'on les crée, et ça c'est le cas notamment aux États-Unis et en Angleterre, ça existe des bourses pour
plus
les élèves.
Plus de bourses pour ceux qui n'ont pas les moyens,
plus
de frais de scolarité pour ceux qui ont les moyens.
Plus d'informations autour de ces bourses. Parce que là où le bât blesse, notamment en Angleterre, c'est pas seulement que les bourses existent, mais c'est aussi que ces élèves-là, pour qui ces bourses sont destinées, ne sont pas informés qu'elles existent.
Il y a une école en France qui a fait ça, c'est Sciences Po. En faisant donc des conventions ZEP, des mécanismes adaptés à ceux qui viennent des milieux sociaux les moins favorisés, tandis que les frais de scolarité pour les plus aisés, et lorsqu'on enseigne à Sciences Po, on voit bien malgré tout que la majorité des élèves viennent de milieux très favorisés, on se dit finalement qu'il y a un effet d'aubaine d'avoir des frais de scolarité gratuits pour ces étudiants-là, qu'il vaut mieux monter les frais de scolarité pour tout le monde et assortir ça de bourses importantes pour ceux qui n'ont pas les moyens.
Oui, mais le problème, c'est toujours le même. Dans quelle mesure un élève de Seine-Saint-Denis ou d'un milieu rural connaît Sciences Po ? Dans quelle mesure sait-il ou se permet-il de candidater à Sciences Po ? Et dans quelle mesure est-il au courant qu'il y a des bourses qui seront mises à sa disposition ? C'est là où le bât blesse, c'est là où se trouve le problème.
Olivier Beau, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?
Je suis d'accord sur le fait qu'il faut essayer de renverser le financement de l'enseignement supérieur. L'université est massivement défavorisée par rapport aux grandes écoles, aux classes préparatoires. Donc je suis entièrement d'accord avec ce diagnostic. Tous les universitaires le savent, nous sommes socialement méprisés et donc la conséquence de cela, c'est que nous sommes massivement sous-financés. Ça, c'est un constat qu'on partage. Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'histoire du déterminisme social, qui est la thèse de Bourdieu. Moi, je ne suis pas bourdieusien.
Ce n'est pas seulement la thèse de Bourdieu.
C'est important, mais ce n'est pas le déterminant. Le point important, je pense, dans ce livre, c'est montré dans ce livre de Gumpel, il dit une chose très juste. La réussite scolaire ne détermine pas la réussite professionnelle. Ce n'est pas parce que vous avez fait Polytechnique, ce n'est pas parce que vous avez fait l'ENA, non. Théoriquement,
je vous dis sa thèse.
Il dit que c'est l'inverse, que le problème en France,
peut se tromper.
Vous m'avez pas laissé finir. La problème en France, c'est que la réussite scolaire détermine la réussite professionnelle. Or, tout le monde sait qu'on peut être polytechnicien et incapable de diriger une entreprise, et qu'ils cèdent entre eux. Et ce que démontre très bien ce livre, je n'ai pas le premier à démontrer la société mandarinale française, c'est que pourquoi il y a cette course au concours, et là je suis d'accord évidemment avec ce constat, c'est que si à 20 ans ou à 21 ans vous réussissez une grande école, votre carrière elle est réussie jusqu'à la fin de votre vie, quels que soient vos échecs. On peut citer toute la liste des gens qui ont fait des grandes écoles qui ont échoué. Citons monsieur Aberer par exemple, ce grand inspecteur des finances qui a provoqué la faillite du Crédit Lyonnais. Y a-t-il une conséquence? Y a-t-il une responsabilité? L'affaire des coins, paix à son âme, dans Sciences Po, quelle a été la conséquence de cette gabegie financière? La conséquence, je vais vous la donner. Le successeur, c'est un énarque comme lui, monsieur Mion. La deuxième conséquence, c'est qu'on a donné, c'est pas trop difficile. Ensuite, la conséquence, c'est qu'on a donné à Sciences Po le droit d'acheter un domaine en plein 7e arrondissement de l'armée. On a donc récompensé Sciences Po pour sa gabegie financière. C'est ça le problème, c'est que quel que soit, donc, si vous avez réussi une grande école, eh bien, c'est ça le vrai problème, le vrai scandale français. C'est
qu'il n'y a pas de mobilité. Dans le discours d'Annabelle Allouche, à qui je vais céder la parole, dans la société du concours, vous expliquez bien qu'il n'y a pas seulement le problème du déterminisme social, et c'est là où Bourdieu n'est pas seul à en parler, où finalement Raymond Boudon, sociologue qui a beaucoup travaillé sur l'école, en parlait également. Le problème, c'est l'information, c'est-à-dire que finalement, les décisions d'orientation des élèves venus des familles modestes sont bien souvent des décisions qui ne sont pas prises en connaissance de cause, Annabelle Allouche.
Alors, c'est pas parce que on manque ou que ces familles-là manquent d'aspiration à l'égard de l'éducation, et au contraire, les élèves et les familles les moins favorisées ont une grande attente à l'égard de l'éducation, et on les retrouve à l'université. Moi, quand je vois mon amphi de L1 ou mon amphi de L2 à Amiens, les étudiants, quelle que soit leur origine sociale ou scolaire, quelle que soit leur filière de baccalauréat, ont une énorme attente à l'égard de l'éducation, de l'université. Ils attendent beaucoup de nous, beaucoup de l'université. Le problème, c'est donc pas l'aspiration, c'est pas les attentes, c'est effectivement l'information, dans quelle mesure on peut améliorer le système éducatif collectivement, politique, enseignants, parents d'élèves, pour que tout le monde ait une information qui soit meilleure et plus ajustée à ces attentes-là.
Alors, ce qu'on appelle information, là aussi, il faut que vous le précisiez, Annabelle Allouche, c'est pas seulement le fait de savoir qu'il y a telle ou telle filière qui existe, ça veut dire que les calculs, parce qu'en fait, les familles, elles ont des stratégies scolaires pour leurs élèves, ces stratégies peuvent être plus ou moins habiles, c'est-à-dire, par exemple, on va se diriger plutôt vers une filière courte quand on a peu d'argent pour financer les études des enfants, et pas forcément faire des choix judicieux.
Le problème, en fait, c'est vraiment de mettre en place un service public d'orientation. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est dans la presse de voir des salons, un véritable marché de l'orientation et de la préparation qui sont réservés finalement aux familles plus aisées, classe moyenne supérieure, qui investissent massivement dans ces salons. Or, le service public de l'orientation me paraît complètement
inexistant aujourd'hui.
Inexistant, ou du moins totalement désinvesti par les pouvoirs publics en ce moment.
Olivier Bon.
Deux choses, j'ai oublié de dire le plus important tout à l'heure. Votre livre, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu le compte-rendu dans Le Monde, parle de la société du concours. Il faut bien comprendre qu'à l'université, on n'est pas dans un système de concours. Donc toute cette histoire sur la sélection, nous, on ne veut pas un concours. On ne veut pas un concours d'entrée à l'université. On veut simplement que les universités puissent être capables de déterminer elles-mêmes si tel ou tel étudiant a la capacité, et donc le profil requis pour rentrer dans son université. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'on veut être sur le modèle international, comme les autres universités. Ça, c'est le point décisif. Donc, on n'est pas du tout dans le système du concours. Le système du concours, c'est celui que je critique, c'est celui des grandes écoles, c'est-à-dire que ça la rente à vie parce que vous avez réussi un concours à 20 ans, à 21 ans. Et pour ma part, je suis entièrement hostile à ce système qui nous mine.
Donc, je suis pas sûr qu'Annabelle Allouche soit d'accord avec vous, Annabelle.
Absolument pas. Pour moi,
Attendez, juste juridiquement, juridiquement, là, soyons sérieux. Le concours, c'est pas un examen. Nous, on est dans un système d'examen. Si on a la moyenne, on passe. Donc, on n'est pas dans
l'agrégation de droit, c'est un examen.
Là, je parle des étudiants.
Oui, mais les étudiants, ils peuvent devenir agrégés de droit.
Oui, mais c'est à la fin.
Vous savez bien que les postes les plus prestigieux à la fac, ils s'obtiennent par concours, Olivier Beau.
Je sais, mais là, on parle de le problème central, c'est la question de l'accès à l'université. On n'est pas dans un système de concours, comme il existe dans les grandes écoles. On est loin de ce loin. On est très loin, on est dans un système d'examen.
Annabelle Allouche.
Le problème, en fait, c'est pas la dénomination juridique, même si c'est un débat qui est tout à fait intéressant entre concours et sélection, c'est vraiment l'acte de sélectionner. quand vous êtes en tant qu'universitaire devant un certain nombre de dossiers d'élèves et que vous êtes amené à les sélectionner notamment sur des critères scolaires, finalement vous êtes dans la même démarche qu'un concours. Il y a des places limitées pour un nombre d'élèves qui est beaucoup plus large que ces places limitées.
Comment ça se passe à l'étranger dans votre livre Annabelle Alouche, La société du concours? On apprend par exemple que la Chine est pionnière et non pas la France en matière de concours. Expliquez-nous un peu comment en Chine, par exemple, on sélectionne les étudiants de ce point de vue.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la sélection et le concours, vu de France, on a l'impression que c'est une spécificité française, alors qu'évidemment, pas du tout. Les Chinois sont, si j'ose dire, les inventeurs du concours. Et pourquoi ? Parce que le concours est à l'origine... vise à l'origine à sélectionner les fonctionnaires et à s'assurer de leur loyauté politique au régime, en l'occurrence de la Chine impériale. Et c'est ce système-là qui a été exporté vers un ensemble de pays et en particulier la France. La Chine aujourd'hui est dans une situation qui ressemble tout à fait à la France puisque on a un système unifié, donc unitaire au niveau national, de sélection à l'entrée dans l'enseignement supérieur par un examen qu'on appelle le Gaokao, qui a lieu pendant 2 jours tous les ans et auquel se présentent, il me semble, environ 20 millions de Chinois. Dans donc des proportions qui sont...
Ça prouve qu'en Chine, ils sélectionnent par un concours. Nous, on est beaucoup moins exigeants. On demande simplement que l'université ait le droit de regarder donc les dossiers. Est-ce que je peux donner juste une anecdote? Parce qu'on parle toujours du tirage au sort, qui est donc l'absurdité la plus totale. Mais il faut bien voir que le système APB est encore plus absurde que ça. C'est-à-dire que maintenant, les universités, on aura enlevé le droit de sélectionner, de choisir eux-mêmes les étudiants pour des filières qui sont dites sélectives, comme par exemple en droit, il y a droit et philosophie. À Paris 1, ils ont une filière qui s'appelle droit et philosophie. Ils avaient 60 postes qui étaient auparavant décidé par l'université. L'APB, le rectorat a saisi, évidemment sans demander à l'université, principe d'autonomie oblige, si le rectorat avait le droit de faire ça à la place de l'université. Ils l'ont fait à la manière bureaucratique, c'est-à-dire la sottise bureaucratique, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette filière droit et philosophie, il n'y a pas les 60 places parce qu'il y en a moins, parce que les étudiants se sont désistés. Or, l'informatique, l'ordinateur n'a pas prévu la possibilité d'avertir l'université du désistement. Donc voilà ce que c'est que voilà le système à la française. On ne peut pas avoir plus ridicule.
Annabelle Alouche, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, ce que j'entends dans le discours d'Olivier Beau, c'est vraiment la question de la place de l'université et aussi du prestige et de l'attraction du métier d'universitaire et de l'espace de l'université comme lieu de production et de transmission du savoir. La sélection, malheureusement, ne permettra pas ou simplement marginalement revaloriser l'université. Pour revaloriser l'université, il faut vraiment un investissement massif des pouvoirs publics, investissement en termes financiers, mais aussi, si j'ose dire, revaloriser la place de l'université dans l'espace public. Et ça ne passera que par des discours qui sont autres que celui de l'université n'est pas pour tous, je pense.
Annabelle Alouche, l'idée qu'un certain nombre de jeunes aillent en BTS, aillent en IUT, dans des filières qui ne sont pas les filières universitaires classiques, même si les IUT dépendent du système universitaire, est-ce que finalement, ça n'est pas aussi logique? Est-ce qu'il n'y a pas des filières à revaloriser, l'idée étant que toute une classe d'âge aille faire du droit, faire des sciences humaines, n'étant évidemment pas une solution qui puisse être considérée comme idéale.
Alors oui, pourquoi pas revaloriser ou valoriser de très belles filières comme les BTS et les IUT, c'est quelque chose de tout à fait valable.
Aujourd'hui, même. Qui va en BTS et en IUT?
Alors, les publics sont différents entre les BTS et les IUT. Les BTS, c'est vraiment pour... Enfin, sont massivement investis par les classes populaires, pour le dire très rapidement. Les IUT sont plus ouverts, mixtes socialement, et sont plus ouverts aux élèves de classe moyenne. Quand je dis plus ouverts, sont plus investis. Encore une fois, je pense que ces filières sont très belles, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une université qui soit forte et qui soit renforcée. Et quand je dis on a besoin collectivement, ne serait-ce que, si on regarde les classements de Shanghai, de revaloriser nos universités où on reçoit une formation de qualité. On est extrêmement sélectionné, formé en tant qu'universitaire pour délivrer une formation qui est de qualité. Donc, on a besoin des pouvoirs publics pour revaloriser nos universités et pas seulement les grandes écoles.
Olivier Beau.
Alors, bon, je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Évidemment qu'il faut me donner plus d'argent à l'université, mais c'est totalement irréaliste dans la situation actuelle. Donc, regardons les faits. Les faits, il y a 2 choses fondamentales qu'on explique dans l'article, et notamment c'est François Vatin qui l'a montré à travers l'analyse de statistiques. Il a cette formule. Quel paradoxe qu'une université surchargée en apparence, déserté en fait. Déserté par les meilleurs bacheliers. Et l'IUT, c'est l'exemple parfait. Quand en 66, on crée les IUT, c'est pour donner une filière courte. Et aujourd'hui, vous avez les meilleurs les bacs scientifiques, les bons bacheliers scientifiques, au lieu d'aller à l'université, lieu de relégation, ils vont à l'IUT. Et ensuite, ils récupèrent l'université après 2 ans. C'est un non-sens total. Premier fait. Donc, on a détourné totalement le sens des IUT. Deuxième contresens total, l'explosion des enseignements privés. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de sélection. Mais les étudiants, ils votent avec leurs pieds, ils vont ailleurs. C'est les étudiants qui veulent la sélection. Et ils vont dans les universités privées, dans les écoles privées. On cite cet article, le livre en 2010 commence par cette anecdote d'un taxi qui dit « Ma fille, elle a un bac S, mention très bien, elle va aller dans une école privée à Nice et ça va lui coûter 15 000 euros par an. » C'est une aberration que des gens comme ça, qui sont des très bons bacheliers, se retrouvent dans les écoles privées. Donc votre discours, c'est très gentil, on n'a pas de sélection, etc. La sélection, elle est dans les faits, elle va ailleurs qu'à l'université. Et nous, notre projet, c'est de rapatrier à l'université des bons bacheliers, des très bons bacheliers.
Annabelle Alouche.
Oui, alors j'entends tout à fait ce discours qui relève d'une logique où la sélection serait une manière de revaloriser la filière en jouant sur le fait qu'on croit que la sélection serait forcément un gage de qualité. Si vous regardez les écoles de commerce et les petites écoles de commerce qui ne forment pas forcément extrêmement bien les élèves sur le marché du travail, elles sont sélectives et pourtant, je veux dire, c'est pas un gage de qualité. Donc la sélection n'est pas un gage
de qualité. Et un point très important qu'on n'a pas encore dit, c'est la formule d'un anglais. Je cite un professeur anglais. Vous avez un drôle de pays. Vous, la France, vous avez les meilleurs enseignants enseignent aux plus mauvais élèves et les meilleurs élèves ont les plus mauvais enseignants. Il essayait de faire cette distinction entre justement l'université et les grandes écoles ou les petites, moyennes écoles où effectivement vous avez des enseignants qui ne sont pas des enseignants-chercheurs. Or, moi je maintiens, personne ne le dit, mais c'est que normalement à l'université, vous avez affaire à des enseignants-chercheurs qui sont censés avoir un savoir critique sur leur discipline. Alors évidemment, si on ne prend pas ça en compte, eh bien on peut discuter à l'infini.
Annabelle Alouche.
Alors, pour aller souvent, pour me rendre souvent en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et pour rencontrer des collègues anglais et américains, je vous confirme qu'ils nous envient au contraire notre système en nous disant, ben voilà, en France, vous avez un pays qui a un véritable service public de l'enseignement supérieur.
On
ne
doit pas avoir les mêmes enseignants, alors.
Alors, peut-être que oui, les sociologues sont plus sensibles au service public que les juristes, mais...
Il y a quand même, Olivier Beau, un critère qui est clair, c'est que malgré donc l'état de l'université française, et je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que celle-ci, aujourd'hui, n'est pas dans un état brillant, malgré tout cela, malgré la différence d'investissement entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis, les étudiants, malgré tout, s'en sortent plutôt bien en France quand on compare leur niveau au niveau des étudiants américains.
Là, ça déborde mes compétences. Je ne peux pas faire une comparaison aussi importante. Parce qu'université, on parle des universités américaines, c'est un monde extrêmement divers, c'est un continent. Et ensuite, on sait bien que.
Quand vous prenez les productions, par exemple, les productions en sciences humaines, lorsque vous prenez. Alors, les productions en sciences, évidemment, elles sont différentes parce que les universités américaines aspirent des étudiants qui ont été formés ailleurs et qui vont finir leurs études, voire devenir chercheurs aux États-Unis. Annabelle Alouche. Sur la comparaison des deux systèmes.
Alors, sur la comparaison des deux systèmes, je suis d'accord avec Olivier Beau sur le fait que c'est difficile de comparer l'efficacité en termes d'insertion professionnelle, puisque ça dépend aussi du contexte économique. Certains moments, dans des périodes de récession économique, l'insertion professionnelle des étudiants, quel que soit leur diplôme, sera forcément moins bonne que dans des périodes de croissance. Donc, il faut prendre en compte le contexte économique pour juger de l'efficacité du système en termes d'insertion professionnelle.
Avec en plus le problème de l'insertion professionnelle en France et des étudiants issus de l'université, qui est un autre problème qu'on ne pourra pas malheureusement traiter aujourd'hui.
Olivier Beau, un mot de conclusion. Qui est une histoire de réforme d'ensemble. Il faut réformer l'ensemble de l'enseignement supérieur. L'université, elle est concurrencée par le système des grandes écoles, le système sélectif. Elle est concurrencée par le CNRS, on n'en a pas parlé. Le CNRS qui accapare et qui recrute tous les chercheurs. Donc l'université, c'est vraiment la part faible du système et on n'a pas réussi jusqu'à présent à la mettre au centre du système, contrairement à tous les discours politiques.
Une petite conclusion, Annabelle Alouche.
Absolument. L'université est un bien public, il faut la chérir, il faut la revaloriser. Il ne faut pas la réserver à une minorité, à une élite qui s'en sert comme ressource économique.